sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. 9 septembre, haha, de retour après un très bel été. On a eu un été un peu tropical, hein, voilà, avec des tempêtes, des inondations, malheureusement. Quand même pas mal de soleil. Alors, on est content, on est heureux de vous retrouver tous et toutes à Sans Détour ce midi. On va avoir avec nous, comme à l'habitude de l'année dernière, Élisane Pellerin, à partir de 12h45, qui fera avec nous la revue de presse. Mais avant d'y arriver, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Jimmy Turgeon-Carrier, qui est coordonnateur de l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. Et on va parler d'une situation vraiment boiteuse, là. Les crédits d'intégration au travail ont été coupés de façon brutale cet été et ça cause vraiment de graves problèmes à une volonté d'intégration au travail, voilà, qui ne se fait pas comme elle devrait se faire. Isabelle Ducharme, qui est la présidente du conseil d'administration chez Kéroul, nous entretiendra d'un projet pilote qui a lieu déjà depuis juillet jusqu'en octobre bientôt, au sujet, projet pilote de transport adapté. On verra qu'est-ce qu'il en est dans la région de Montréal. Mais pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois cette année notre vulgarisateur scientifique Philippe Ducharme. Tout ça à Sans Détour. Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va très bien, François, et toi?
Ça va bien, passez un bel été.
Ah, super, on en a bien profité.
Oui, bon, parfait. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est peut-être un truc scientifique. J'ai remarqué qu'en raison des pluies abondantes que nous avons eues et de la chaleur humide, mm-hmm. Il y a comme une deuxième saison de maringouins. Je ne sais pas d'où ça vient.
Oh, ouais.
Ben, ça vient des marécages, je suppose, des eaux stagnantes. Là.
Il y en a pas mal.
J'ai le plaisir d'habiter près de la forêt. Et c'est normal d'avoir des moustiques fin mai, ben puis ouais. En juin. Puis après l'absence de moustiques en juillet-août, depuis à peu près 10 jours, ouais. Il y a des tout petits maringouins, mais vraiment comme des mini-maringouins, très voraces et en très grande quantité. Et je rêve pas, là, c'est une constatation que d'autres...
Ils ont faim, hein?
Oui. Est-ce que c'est la ponte de la saison qui éclot avant le printemps prochain? J'en ai aucune idée. Mais on est rendu avec une deuxième récolte de maringouins, là. C'est pas habituel au mois de septembre.
On s'en serait passé, c'est sûr.
Voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Ben écoutez, je vais commencer par une nouvelle vraiment intéressante d'un chercheur de l'Université de Montréal,
hein, oui.
L'équipe du docteur Alexis Pchejetsky.
D'accord.
Ce chercheur-là a été capable d'observer, c'est pour la première fois, une structure en trois dimensions de l'enzyme qui est défectueuse dans la maladie de Sanfilippo.
Oh.
Alors, si tu veux, quelques mots sur la maladie.
Oui, elle-même, oui.
C'est un peu, hein? On parle ici d'une maladie génétique, une maladie qui est rare et qui, malheureusement, touche aussi les enfants. Une maladie qui va... dans les premières années, c'est un retard d'acquisition cognitive qu'on va observer, mais très rapidement, la maladie évolue, et de sorte que la personne va perdre énormément au niveau de ses fonctions motrices.
Oh.
Et ultimement, à l'adolescence, ben, il y a une perte totale d'autonomie et l'enfant va malheureusement décéder. Donc, c'est assez tragique.
Oh, c'est
comme
terrible,
maladie,
ça. C'est comme une dégénérescence de
oui.
Tout le système nerveux central qui s'accomplit en une quinzaine d'années, là.
Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Puis,
c'est dur.
Puis, c'est dur, puis surtout qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui là, qui permet de guérir cette maladie-là. Fait que c'est vraiment... On est sans armes là, devant ça.
Oh.
Alors, au cœur de la maladie, c'est une mutation au niveau d'un gène. Et ce gène-là, ben, il code pour une enzyme. Donc, c'est une enzyme qui est défectueuse. Elle est défectueuse parce qu'elle n'a pas la bonne forme. Elle a une malformation au
parce
niveau
que,
de sa structure.
Il faut comprendre que, là, on va parler de chimie moléculaire. Là.
Oui.
Que les molécules qui constituent tout... tout ce qui est tangible dans l'univers, là, que ce soit les gaz, les fluides ou le solide, là, enfin, une molécule, c'est une molécule, et ce sont des atomes qui sont reliés entre eux par des liens électromagnétiques, mais on ne rentrera pas là-dedans.
Des liens chimiques.
Des liens chimiques. Okay. Et cette structure-là, elle est normalement 3D. Mais là, dans le cas de cette enzyme, quoi, elle est comme écrasée?
Ben, elle peut être en 3D, mais sa forme n'est pas normale.
Okay.
Et puis ça compromet son rôle à jouer. Parce que
d'accord.
Normalement, cette enzyme-là, elle va avoir un... Je vais la nommer, là. C'est GHGSNAT.
Bon,
je vous
voilà.
Épargne le nom
oui.
complet, mais c'est,
j'ai,
c'est comme
j'ai,
ça, c'est très long.
HGSNAT, là, ça suffit, oui.
Ça suffit, c'est ça. C'est pas une plaque, là, mais ça suffit. Cette enzyme-là va normalement avoir pour rôle de détruire des déchets, certains déchets que la cellule produit. Le déchet en question, c'est, on appelle ça de l'éparane sulfate. Pour faire ça simple, c'est un sucre. C'est
d'accord.
une molécule qui est dans la famille des sucres.
Alors comme l'enzyme ne fait pas son travail... Les cellules neuronales...
L'accumulent. Ça va s'accumuler.
Ça s'encrasse, si je peux dire. Et donc, finalement, tout le système nerveux de l'enfant est corrompu.
Oui. C'est ça, exactement. Alors, bien évidemment, si on veut essayer de corriger ça, ben une des façons de faire, c'est d'être capable de voir, mais qu'est-ce que ça a de l'air, cette enzyme-là, qui n'est pas de la bonne forme, autrement dit. Et puis, dans ce contexte-là, il y a des chercheurs qui se disent, moi, si on pouvait apporter une thérapie chaperonne, okay? Une thérapie chaperonne, ça veut dire qu'on prend une petite molécule, et puis cette petite molécule-là peut venir s'intégrer à l'enzyme qui est défectueuse.
D'accord.
Ça lui permet d'avoir la bonne forme, retrouver son activité
normale. On lui redonne la forme qu'elle devrait avoir, donc
exact.
Son activité redevient normale.
C'est
donc
ça.
Les cellules évacuent les déchets et le système nerveux central n'est pas attaqué.
C'est ça. Et là, on en arrive là, aux résultats, les travaux de recherche du professeur Pszczecki. Ce qu'il a fait, lui, c'est d'être capable de la voir, cette enzyme-là, défectueuse en trois dimensions. Et puis ça se fait pas n'importe comment. La méthode qu'il a utilisée, on appelle ça la cryomicroscopie électronique.
Cryo, ça veut dire que c'est très froid.
Et tout à fait, exactement. Tout à fait, tu as raison, parce qu'on prend l'échantillon et on va le congeler à une très basse température, là, autour de moins 160 degrés Celsius.
D'accord.
Alors, ça fige les molécules dans le tissu. Et puis après ça, on met ça sous un microscope très puissant. Et là, on prend plusieurs photographies couche par couche, là, comme si on descendait dans l'échantillon au fur et à mesure.
Et ça permet de voir en trois dimensions ce dont l'enzyme devrait avoir l'air quand il est
exactement.
Normal.
Exactement. Donc, au final, ce qu'il a été capable de faire en empilant les photographies une par-dessus l'autre, c'est le logiciel qui fait ça, on peut voir la structure en 3D. Et
d'accord.
une fois qu'on la voit, ben là, on peut mieux travailler pour trouver des molécules qui pourraient venir s'insérer.
Qui peuvent être comme des petites béquilles, là, ou des petits...
Oui,
d'accord. C'est un peu comme mettre une cale en dessous de la patte de table là, qui boite.
Oui, c'est une bonne image, une très bonne image.
Alors, encore faut-il voir la table? C'est de ça dont il s'agit.
Oui.
Ouais. Ben bravo. Alors, c'est au centre universitaire de l'hôpital de Sainte-Justine. Ben ça, c'est très bien. Ah, ben là, il y a une nouvelle au sujet de l'Alzheimer. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens.
Ah, les amateurs de café vont être contents d'entendre ça, je pense. C'est une étude faite par des Français qui a été publiée très récemment dans la revue Brain, une revue scientifique bien, bien cotée. La caféine aurait un effet bénéfique pour ralentir la progression de l'Alzheimer chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer, mais au stade précoce.
Oui,
c'est important de le mentionner. Dans la littérature, là, on le sait depuis déjà un bon moment, consommer de 2 à 4 tasses de café par jour, ça a des effets bénéfiques pour ralentir le déclin cognitif qui est lié au vieillissement. Des études même ont montré que ça diminuait le risque de développer l'Alzheimer. Mais
est-ce que si on prend du déca, c'est pas pareil parce que c'est la caféine.
Oui, il faut la caféine dedans.
C'est la caféine qui compte. Oui, d'accord.
Qui vient jouer.
Okay.
Mais il n'y a pas de lien encore établi de cause à effet. Là. On n'est pas encore rendu capable
d'accord.
de dire.
Ce sont des observations de type empirique.
Oui, c'est ça, exactement.
D'accord.
Les travaux de cette équipe-là de chercheurs français, ils ont fait ça dans un modèle animal d'abord. C'est de montrer que chez les souris, qui sont atteints d'Alzheimer, en quelque sorte. Là, c'est un modèle qui permet d'imiter l'Alzheimer. Ben, il y a une augmentation de récepteurs, en particulier sur les neurones. Ce sont des récepteurs qui ciblent, entre autres, la caféine. C'est-à-dire, la caféine peut se coller sur ces récepteurs-là. Okay? Le problème avec cette augmentation-là des récepteurs, c'est que ça favorise une perte de synapses. Des synapses, ce sont des connexions entre deux neurones, par exemple, pour transiger de l'information, permettre d'acheminer un signal. Ces récepteurs-là ont un nom, et là, il va être moins compliqué, mais c'est les récepteurs A2A de l'adénosine.
Ah, ben oui, c'est sûr.
De ces récepteurs-là.
Ben voilà. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en ayant ayant une plus grande consommation de caféine, c'est par le café qu'on l'a, mais c'est important que ce ne soit pas du déca. Caféine, on est capable de ralentir cette accumulation.
Exactement. Puis, en fait, ça, c'est l'hypothèse qui est proposée par l'équipe de recherche. Et comment? C'est parce que la caféine va venir bloquer ces récepteurs-là. Fait qu'en les bloquant, on empêcherait la suite des choses. Qu'il y ait une perte.
Oui, que ça déboule.
Mm-hmm. Exactement, c'est ça. Présentement, cette hypothèse-là, elle est testée en étude de phase 3. Ça veut dire qu'on prend des gens, un groupe de personnes.
OK. On a dépassé les souris, là. On est chez les humains.
Oui, exactement. C'est là que ça devient intéressant dans cette étude-là. C'est que là, on est rendu à la phase 3 où on veut voir est-ce que ça marche chez les humains. Mm-hmm. Alors, on prend des humains, un bon groupe, là, qui sont atteints d'Alzheimer au stade précoce. La moitié vont recevoir une dose de caféine journalière, là, 400 mg de caféine par jour.
Ça, c'est presque 5 cafés, ça.
C'est 4-5 cafés environ.
Parce que café, c'est 80 à 100 mg,
c'est à peu près dans ces eaux-là, exactement. L'autre moitié du groupe reçoit un placebo. Ah,
c'est eux qui ont le déca, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est bon, j'aime ça. Après ça, on va observer, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a au niveau de leur capacité de mémoire, fonction cognitive. On compare le avant et le après. Puis si les résultats sont probants, peut-être qu'il y aura d'autres études un peu plus à grande échelle.
Bravo.
C'est ça qu'on aimerait. Puis peut-être qu'on aura des recommandations par rapport à ça. Alors, c'est intéressant de suivre ça. Ce n'est pas un médicament, c'est important de
fait.
Ça pourrait contribuer à ralentir le
développement de la maladie. Voilà, tout à fait. Parce que c'est pas tellement mieux de prendre trop de café, de perdre le sommeil.
Non.
Le sommeil aussi, ou le manque de sommeil est un vecteur important de vieillissement prématuré. Exagérer en rien, en toute chose, la modération, Mais 2 à 4 tasses, mais c'est pas si mal, ça.
C'est ça.
C'est quand même pas une consommation excessive. C'est pas comme ça demande une dose massive. Bravo! Puis si évidemment, moi j'aime boire mon café, alors je suis un amateur de café. Alors, j'espère que ça va me donner un petit coup de pouce pour l'avenir. Merci.
Terminer,
Philippe, il y a quelque chose de très simple qui va aider les musiciens handicapés visuels.
Exactement. Quand on joue de la musique, il faut se coordonner avec son partenaire de musique. Un étudiant de l'Université de Carleton à Ottawa. L'étudiant s'appelle Léon Loup. Il a développé un petit dispositif qui se porte à la cheville. Et ce qui est intéressant, c'est que deux musiciens le portent. Ils peuvent communiquer entre eux, non pas par des signaux sonores, mais bien par des vibrations.
D'accord.
Alors, en collant les chevilles l'une contre l'autre, pour un musicien, il actionne un petit bouton. Ça envoie un signal à l'autre dispositif que porte le musicien, le deuxième. Et ça se traduit sous forme d'une vibration. Voilà.
D'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens handicapés visuels sont fort doués pour la musique, mais il ne faut pas croire qu'ils le sont tous, là. Ça, c'est une autre mythe. Moi, j'ai aucune oreille, puis je vois pas bien. C'est pas parce que je vois pas bien que tout d'un coup, ça fait de moi un musicien. Mais quoi qu'il en soit, dans un ensemble, dans un orchestre, par exemple, là, il s'agit de suivre les indications du chef d'orchestre.
Ben, c'est ça. Qu'on soit dans un orchestre ou à deux, il faut à certains moments accélérer, parfois pour ralentir un peu, augmenter le volume ou le baisser. Donc, ce sont des indications, mais pour une personne avec un handicap visuel, un chef d'orchestre, ça y va de la baguette, on le voit.
Oui, tout à fait. La baguette est d'une main, l'autre main, il y a aussi des indications de la main libre. Là.
Oui, tout à fait. Mais bref, tout ça passe par le visuel, autrement dit.
Oui.
Alors, ce petit dispositif-là permet à deux musiciens de s'envoyer de l'information sous forme de petites vibrations. l'information. On peut imaginer ça comme un peu un genre de code morse, mais plutôt que d'entendre des bits, là, ben, on ressent des vibrations au niveau de la cheville. Et dépendamment du code qu'on se donne entre les deux musiciens, ben, on peut comprendre que okay, deux vibrations veut dire ceci et trois vibrations voudraient dire cela. Donc, on peut faire les codes comme on le souhaite, mais au final, ça nous permet simplement d'avoir une belle coordination et de pouvoir apprécier à juste valeur le talent des musiciens qui vont en jouer. Hein, voilà.
Ah, ben ça, c'est formidable, ça, oui. Philippe. Oui, en parlant de musiciens, ben, oui, ça va être la pause musicale.
Ah, bon. Hein,
voilà. Alors, je vous réserve une belle surprise.
Bien,
Philippe, on se revoit un de ces lundis.
Hein? Assurément, avec grand plaisir.
D'accord, merci beaucoup.
Parfait, à toi aussi, bonne journée.
Voilà, c'était un extrait du deuxième mouvement du concerto pour violon numéro 2 de Arnold Schoenberg. Alors, vous allez me demander, pourquoi diable est-ce qu'on entend ça aujourd'hui? Bien, dans quelques jours, le 13 septembre, ce sera le 150e anniversaire de la naissance d'Arnold Schoenberg, un musicien viennois qui, par la suite, a fui la terreur nazie et a fait carrière aux États-Unis avant de décéder dans les années 50. Et Schoenberg a été une influence énorme sur la musique classique au tournant du 19e, début du 20e siècle. Stravinsky et plusieurs autres se réclament de sa lumière, si je peux dire. Il a vraiment complètement décloisonné la musique à son époque. Et curieusement, aujourd'hui, ben, on l'entend relativement peu, entre autres parce que c'est assez compliqué, ses œuvres. Voilà, mais allez faire un tour dans une discographie, puis apprenez peut-être à l'apprécier. Voilà, c'est dit. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Jimmy Turgeon-Carrier. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien et vous?
Ça va très bien, merci. Vous êtes le coordonnateur de l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. Et on va parler ensemble aujourd'hui d'une situation qui a cours chez vous, mais qui est à la grandeur de la province aussi. C'est les contrats d'intégration au travail qui sont diminués.
Oui, effectivement, c'est ça. On a appris ça durant l'été, là, que le gouvernement de l'Emploi Québec ont décidé de faire une diminution dans le programme des contrats d'intégration au travail là, pour l'intégration des personnes handicapées, dans la mesure le soutien à l'emploi là, pour les employeurs. Là, ils ont annoncé qu'il y avait une diminution de 5% dans la mesure salariale là, pour les contrats d'intégration au travail.
5%, vous avez dit?
Oui, c'était 5% là, qu'ils nous ont annoncé là, que c'était mis en place à partir du 1er août.
Okay.
Dans toutes les régions du Québec, là, ceux qui avaient des employeurs, des employés là, handicapés là, dans leur entreprise,
tout à fait.
Là, que dans le fond, que les renouvellements des contrats seraient diminués de 5% à partir du 1er août.
D'accord. Ben ça, puis c'est arrivé une roche qui est tombée, là. On s'attendait pas à ça, là.
Non, pas du tout. Ils nous ont annoncé ça sans nous prévenir, sans nous consulter non plus, à savoir, nous, moi, je suis dans le Bas-Saint-Laurent, mais ça, dans le fond, c'était le regroupement des aveugles et ambliables du Québec là, qui nous ont alertés là-dessus, là. Dans le fond, nous, on fait partie là, du regroupement en tant qu'association de personnes handicapées visuelles. Mm-hmm. Puis aussi, il y a l'Europe là, de Québec là, qui ont fait un reportage aussi à TVA là, qui a dénoncé les mesures, là, les coupures là, qui ont fait en sorte...
Et ce ne sont pas que les personnes handicapées visuelles qui sont touchées par ça, on se comprend, là, c'est toute forme d'handicap.
Non, c'est toute forme d'handicap.
Exactement,
là, qui ont un contrat d'intégration au travail là, pour qui sont diminués, là.
Et comment est-ce que le gouvernement justifie ça d'une manière? Est-ce que c'est parce que tout le monde coupe un peu?
Ils ont expliqué un peu cette mesure en disant que les retours du gouvernement fédéral étaient diminués, puis que c'était à cause de ça que les autres avaient décidé de diminuer
passer le problème le long de la chaîne. Ouais, d'accord. OK. Mais est-ce que dans l'immédiat, je sais qu'il y a eu des échos qui ont été faits. Dans les médias, j'ai entendu comme vous le reportage qu'il y a eu à TVA, je pense, au cours du mois d'août, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a eu le gouvernement a répondu à ce cri d'alarme-là? Parce que ça fait pas de sens.
Ben non, effectivement, non, on n'a pas vraiment eu de réponse à ça là, par le gouvernement. Je sais que présentement, il va dans les prochaines semaines. Il va y avoir une consultation avec les différents là, regroupements là, de défense des droits collectifs.
Oui.
Il y a autant par la CRIF, la Fédération, la santé mentale et tout ça, le TIS, dans le fond, tous les regroupements, là, disaient là, qu'il y allait avoir des échos avec le ministère de l'Emploi du Québec,
oui,
mais on n'a pas eu aucun retour là-dessus. Nous, je sais qu'avec l'Europe, ici, du bas du fleuve, on a, dans le fond, envoyé des lettres aux différents députés, là, autant provincial que fédéral, justement pour dénoncer ça, pour qu'il y ait, dans le fond, des mesures qui soient prises en sorte que ça soit que les personnes handicapées ne soient pas trop impactées par cette mesure-là.
Bien, tout à fait. Est-ce qu'il a commencé à avoir des impacts? Est-ce qu'il y a un ralentissement de l'intégration? Il va y avoir des employeurs qui disent, ben là, moi, ça ne marche plus avec moi, là, je ne peux plus prendre personne.
Ben c'est sûr que c'est plus du cas par cas parce que dans le fond, c'est chacun des employeurs qui ont des employés sur cette mesure-là qui doivent être renouvelés ou des nouveaux, c'est sûr qu'il va y avoir des ralentissements, c'est sûr et certain, parce que Tu sais, veux pas, quand on a un taux salarial subventionné à un certain pourcentage qui s'est diminué de 5 %, c'est sûr que les conséquences peuvent être quand même assez dangereuses là, pour les personnes handicapées. Ça peut même être des heures de travail qui peuvent être diminuées.
Exact.
Il peut y avoir des mises à pied aussi. Il peut y avoir le moins de soutien qui est alloué. Là,
oui, ça, c'est... vous avez tout à fait raison. C'est bête à dire, là, mais...
C'est important dans tout ça.
Oui, les conséquences, comme vous dites, ça peut être soit les heures de travail, soit de ne plus intégrer personne en milieu de travail, mais ça peut aussi être que les accommodements vont commencer à avoir les coins plus ronds.
Bien, c'est ça. Puis, dans le fond, nous, on a peur que ça se produise. Puis, on a justement, en sortant, là, au courant de l'été, là, avec la lettre ouverte, là, c'était justement pour vous dénoncer ça, qu'on voulait s'assurer que les mesures de soutien soient mises en place, qu'elles soient maintenues aussi, parce que, tu sais, il y en a qui ont quand même si on parle des personnes avec une déficience intellectuelle ou qui ont besoin quand même d'avoir une personne qui va leur dire un peu quoi faire, les encadrer,
aussi.
Tout ça dans leur emploi qui leur permet de socialiser. Mais c'est ça qu'on veut, dans le fond, faire en sorte que ça soit maintenu et qu'il n'y ait pas de diminution pour eux non plus. Là.
Exactement. Puis c'est quand même ce qui est choquant là-dedans, c'est que pendant ce temps-là, les gouvernements s'évertuent à faire des campagnes pour encourager les employeurs à ouvrir leurs portes pour que des personnes en situation de handicap s'intègrent au milieu du travail. Là, on sait que c'est bon pour tout le monde. Hein? On sait que c'est pas juste
ben
bon
oui,
pour...
C'est choquant de voir ça parce que, tu sais, en plus que là, on se cachera pas que dans les dernières années, on est dans une pyramide de main-d'œuvre.
Oui.
Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes handicapées qui ont des formations assez pointu, puis
oui.
Ils ne sont pas embauchés dans les différentes entreprises qui pourraient peut-être venir pallier justement à un manque de main-d'œuvre. C'est ça qui est choquant parce que les gouvernements prônent l'inclusion.
Oui, puis comme solution à la pénurie. Puis
il y en a beaucoup qui sont encore sans emploi, là.
Exactement. Oui, le chômage chez les personnes en situation de handicap est encore beaucoup plus élevé qu'auprès de la population. La population en général. Ben là, on espère que ce non-sens, on va dire ça comme ça, que ce non-sens soit réglé là, et qu'il n'y aura pas trop de conséquences à moyen ou long terme. Mais c'est bête. Hein? Il y a quelqu'un quelque part qui a sauvé un peu d'argent là, en compressant le budget, puis voici ce que ça donne au bout de la ligne.
Oui, effectivement, puis c'est ça qu'on souhaite, puis qu'on veut dire au gouvernement qu'on est là justement pour défendre les droits des personnes handicapées qui doivent...
Monsieur Turgeon-Carrier, je vous remercie. On va suivre ce dossier-là tout l'hiver.
Non, mais je vous remercie.
Merci, bonne journée.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Et voilà, nous sommes de retour. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, et je dois le dire, quelqu'un que je connais bien, alors ça se peut qu'on se tutoie, Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul. Bonjour Isabelle.
Bonjour, c'est vrai que c'est difficile de vous voir.
Oui, bon, ben, on va se sentir bien à l'aise, il n'y a pas de souci. Bien, là, aujourd'hui, on va parler d'un projet pilote de taxi adapté qui a été... mis de l'avant par Kéroul
oui.
Et la compagnie Taxelco, ça c'est Théo Taxi, Taxi Diamond et plusieurs autres dans la grande région de Montréal. Et c'est intéressant parce que le transport adapté est un sujet de préoccupation constant, quotidienne, oui.
Effectivement, le transport adapté a sa raison d'être. Hein. J'espère qu'on ne l'enlèvera jamais de l'écosystème du transport parce qu'il est nécessaire pour plein de raisons, parce qu'il est moins cher, parce qu'il est du porte-à-porte, parce qu'il rassure les gens, etc. Par contre, il a ses limites. Par exemple, à Montréal, on est chanceux, il y a une politique de zéro refus.
Oui.
Donc, si on appelle jusqu'à 9 heures la veille, on peut l'avoir le lendemain sans problème. Quand on arrive en région, il y a plein de régions
oui.
ou de villes, de villages, soit qui n'ont pas de transport adapté, soit qui en ont, mais disponible seulement la semaine, disponible seulement, certains même seulement pendant le jour, pas le soir.
Ou pour certaines raisons et pas pour d'autres.
Exact.
Il faut que ce soit absolument un rendez-vous médical là, ou des choses de ce type-là, mais il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de famille.
Effectivement. Donc, ça a ses limites, autant pour la personne qui vit dans cette région-là, dans cette ville-là, mais ça a ses limites aussi pour le voyageur.
Oui.
Comme Kéroul travaille beaucoup pour faire venir faire voyager les Québécois au Québec,
oui.
Mais faire aussi venir des touristes au Québec pour faire bouger les gens, mais aussi faire bouger l'industrie touristique et la rendre de plus en plus accessible, bien, ça allait de soi que ça prend un transport qui est disponible pour les gens
partout.
Quand ils en ont besoin.
Oui.
Le fondateur de Kéroul, André Leclerc, a travaillé pendant, je pense, 8-10 ans avec le bureau de taxi pour qu'on ait un service de taxi disponible. À l'époque, on travaillait pour à l'intérieur de 30 minutes. Malheureusement, avec la nouvelle loi sur le taxi qui est arrivée en 2019...
Oui, qui a fait exploser l'industrie, oui.
Exactement, et qui a fait que le bureau de taxi n'avait plus le droit d'exister. Donc, Montréal devait être traité comme les autres villes. Alors, heureusement pour nous, Taxelco a entendu une de mes allocutions et a dit... Bien, nous, on va l'essayer, ce projet-là. Puis on s'est assis ensemble, on s'est demandé, en fonction de la flotte de taxis disponible à Montréal, en fonction des demandes qu'on pensait qu'il pouvait y avoir, qu'est-ce qui était raisonnable. Alors, c'est Taxelco vraiment qui gère ça.
D'accord.
Mais avec nous, bien sûr, on a pris les décisions de comment c'était pour fonctionner. Donc, c'était très important pour nous que... ça soit au même coût qu'un taximètre, n'importe qui d'autre.
Ordinaire, oui, tout à fait. Ben oui, parce que...
Il n'y a pas de frais supplémentaires.
Il ne faut pas être puni, là. Ouais.
Et le chauffeur doit absolument faire comme avec un autre client, c'est-à-dire on part pas le taximètre avant de nous embarquer puis d'attacher le fauteuil. On part le taximètre une fois que le chauffeur est assis et prêt à partir.
Exact.
Et on l'arrête dès qu'on est arrivé à destination, pas une fois qu'on a détaché le fauteuil roulant puis qu'on est rendu dehors.
Tout à fait. Et faut aussi prendre en considération prendre le bon chemin puis aller au bon endroit puis ainsi
exact.
De suite, là, pas faire des balades.
Puis l'avantage, moi je trouve, ou l'autre avantage que je trouve aussi, c'est qu'on a le choix de soit le faire par téléphone, par Internet, par application mobile.
Okay.
C'est vraiment aussi, ça prend en considération les capacités de tout le monde.
Oui.
On n'est pas tous capables d'aller taper une adresse
sur le net ou l'utilisation d'un téléphone mobile n'est pas toujours évidente.
Exactement. Donc, contrairement à jusqu'à ce que le projet pilote commence le 10 juillet, où là, on appelait une compagnie de taxi, puis la majorité du temps, on nous disait, ben il faut appeler 24 heures à l'avance ou il faut appeler.
Exact. Oui.
Là, on est dans un monde où on peut appeler comme monsieur et madame tout le monde.
En moins d'une heure.
Ils s'engagent, c'est ça, en moins d'une heure. Donc ça, c'est gros, là. C'est une grosse différence.
Oui, puis en même temps, d'avoir un service, je dirais, au même titre que le reste de la population.
Exact.
Hein, on ne demande pas d'être transporté gratuitement. On veut juste être transporté comme tout le monde.
Exact. C'est pour ceux qui ont... la capacité financière, pour ceux qui ont une aide financière ou peu importe, et qui sont capables de se payer un taxi, bien, c'est disponible. Puis ça, c'est comme je disais tantôt, un n'empêche pas l'autre. Le transport adapté
tout à fait.
Ne doit pas éliminer le service de taxi qu'on peut payer nous-mêmes et vice-versa.
Mais on peut penser que le fait que des usagers des usagers de transport adapté puissent préférer un mode plus flexible et sont prêts à débourser de leur poche, ça va de fait créer un peu d'espace pour le reste des usagers du transport adapté public.
Exact, parce qu'il y a des gens qui attendent là, pour être acceptés pouvoir utiliser le taxi, le service de transport adapté. Mais effectivement, ça peut libérer un peu plus de place. Ça peut peut-être faire qu'il va y avoir moins de... C'est ce qu'on appelle entre nous là, la run de lait, là, qu'on
oui.
On va chercher puis déposer plusieurs personnes en passant. Mais s'il y a moins de demandeurs, bien naturellement, peut-être que.
En fait, ça augmente la quantité totale d'offres de services.
Exact. Et pour l'instant, ça prouve vraiment. Il y a Il y a à peu près 5 ou dernières nouvelles, là, les dernières statistiques qu'on avait vérifiées avec Taxelco, là, il y avait eu à peu près 500 courses de fête.
Oh, okay.
Déjà, dans la première semaine, il y avait le double de demandes d'habitude. Un taux de ponctualité de 90 % pour les gens qui appellent en dernière minute.
D'accord.
Puis, le temps d'attente moyen était même 30 minutes. C'était même pas l'heure.
Oh. Donc, c'est pas mal.
C'est assez concluant.
C'est sûr que c'est dans une période où la température est clémente, là. Peut-être que l'hiver...
Oui.
Mais l'hiver, c'est mauvais pour tout le monde, alors.
Mais là, l'idée de faire ce projet pilote-là, c'est qu'en ce moment, justement, avec le changement de la loi, bien, ce qui existait avant dans les obligations et dans les aides financières aux gens qui voulaient acheter un véhicule puis le faire adapter, ça n'existe plus. Fait que là, ce qu'on veut prouver, c'est que c'est un besoin, c'est utilisé, et donc qu'il devrait y avoir une aide financière qui revient par le ministère du Transport.
Parce que,
ou une
entité
X.
Parce que pour l'instant, les taxis qui rendent ce service-là sont des taxis qui sont déjà adaptés, là.
Exact.
Est-ce que les chauffeurs, ils trouvent leur compte? Parce que on veut pas que les chauffeurs, je dirais, décrochent du système. Parce qu'ils vont dire, oui, mais si ça m'est payé de la même manière qu'une course ordinaire, mais que j'ai... Il faut que je suive une formation. Mais s'ils ont un véhicule adapté, la formation, ils l'ont déjà probablement. Mais
oui.
Ce que je veux dire, c'est que ça leur demande peut-être un petit peu plus d'efforts. Est-ce
oui.
qu'ils sont rémunérés de la même manière?
En fait, nous, c'est ça qu'on veut aussi dans ce qu'on va faire après avoir fini le projet pilote. On va travailler avec Taxelco pour justement faire l'analyse de tout ça puis dire, ben par exemple, un chauffeur de taxi qui s'engage à faire du taxi à la demande comme ça, ben par exemple, il va y avoir une compensation en partant. À chaque fois qu'il fait une course avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il va avoir un montant qui lui est donné parce que la course prend un peu plus de temps. Il y a des modalités à voir parce qu'il y a des exemples à suivre aussi là, ailleurs au Canada puis aux États-Unis. Fait qu'il va avoir une évaluation à faire sur qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus approprié autant pour le chauffeur que pour l'utilisateur, puis pour que tout le monde soit gagnant là-dedans, puis que personne semble qu'il perde quelque chose. Parce qu'on le sait, en ce moment, la majorité des chauffeurs de taxi accessibles sont pris par les compagnies de transport adapté comme
exact.
La STM.
Ouais.
Parce qu'ils ont un contrat fixe.
Tout à fait.
Et donc, ils savent qu'ils vont avoir quel revenu ils vont avoir.
Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'ils... Parce que je me suis permis de discuter du projet pilote avec des amis que j'ai qui sont des chauffeurs de taxi et qui font du transport adapté public. Ils étaient très intéressés au concept. Mais ils ont dit, mais il faut s'assurer que les chauffeurs, ils trouvent leur compte, parce que sinon, éventuellement, ils vont décrocher, ils vont dire, oui, mais c'est moins payant qu'une course ordinaire, puis c'est plus de tracas, ou ceci ou cela. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus beaucoup de gens qui vont être prêts à participer à un programme comme celui-là.
Effectivement. Donc, il y a une réflexion, c'est sûr, là, plus approfondie
exact.
Par la suite. Une fois qu'on est en train de voir que vraiment, il y a une demande.
Oui.
Puis il y a un besoin.
Tu disais 500 courses depuis le 10 juillet?
Oui.
D'accord. Ça, c'est quoi? C'est des chiffres qui datent quand même quelques jours, quelques semaines?
Oui. C'est pas des chiffres là,
d'hier.
Là.
Non, d'accord.
C'est comme juste de savoir que dans la première semaine, ça avait doublé déjà, c'est intéressant.
C'est beaucoup, oui, tout à fait.
Moi, personnellement, je peux vous dire que je l'ai utilisé plus d'une fois. Juste, par exemple, vous le savez, je pense, les auditeurs, c'est depuis le temps que je fais des chroniques avec Canal M, je parle tout le temps de bouffe.
Oui, gastronomie, culture, tourisme, voilà.
Voilà, et le nombre de... Ça fait quand même quelques fois là, que je suis tellement contente de ne pas dépendre du transport adapté pour le retour.
Oui.
Je manque pas mon dessert parce que...
Il faut
le
partir.
Il arrive, là.
Parfois, c'est gênant parce que on est à table, puis tout le monde est parti, puis on attend encore dans l'établissement parce que notre transport n'est pas encore arrivé. Là aussi, des fois, c'est un peu élastique.
Oui. Donc là, tu sais, je peux dire, quand je suis rendu au dessert, là, j'appelle le taxi. Puis là, j'ai le temps de manger mon dessert, puis payer ma facture, puis il s'en vient. Fait que, tu sais, c'est des... Puis je l'ai utilisé aussi pour un rendez-vous de dernière minute. On m'a appelé. Mm-hmm. On m'a dit, on aurait de la place pour vous donner une résonance magnétique cet après-midi. Seriez-vous disponible?
Oui, là, c'est possible. Parce que, comme on dit, on peut agir tout de suite. Et dans le fond, c'est une liberté et une flexibilité qui existent pour tous et toutes. Hein? Voilà. Alors, c'est juste normal, en fait. Ce sont des gestes qui sont normaux, ça, de pouvoir dire, il me faut un taxi dans la prochaine demi-heure. Est-ce que je peux en avoir un? C'est des choses que toute la population connaît assez bien, surtout en milieu urbain, du moins.
Moi, ça fait longtemps que je dis, je vais dans des villes, des fois, puis je me sens plus chez moi.
Oui.
Parce que, justement, je peux prendre appeler un taxi, puis l'avoir dans la demi-heure. Je peux, tu sais, c'est comme, pourquoi je peux pas faire ça chez moi?
Exactement.
En ce moment, je peux.
Voilà. Alors, le 10 octobre, l'expérience se termine. Là, vous allez colliger Taxelco et Kérol, vous allez colliger toutes les données, prendre le pouls de tous les intervenants, voir comment ça a été reçu. Et là, il s'agit de porter ça au gouvernement aussi pour que...
Effectivement. Donc, il faut l'utiliser pour montrer qu'il y a vraiment une raison d'exister,
oui.
Pour que nous, après ça, on puisse dire, regardez, les gens l'utilisent. Et il faut que ça continue, puis aidez-nous à ce que ça continue.
Alors, on peut prendre un rendez-vous en ligne. Ça se fait très bien. On peut aller sur to.taxi.
Oui.
On clique sur le mode de transport et sélectionner « Van adapté » dans le menu. On peut également aller...
On peut appeler le 514-322-5160, 514-322-5160. L'option 5.
L'option numéro 5 dans le menu. Voilà. Bon, mais ça va nous permettre de le faire. Puis il y a une application mobile aussi, Théo. Alors là aussi, on peut retrouver l'onglet Van adapté. Alors d'ici au 10 octobre, on sort.
Oui. Hein,
puis on prend le taxi du programme Van adapté de Taxelco.
Oui.
Et puis de cette manière, parce que de toute façon, d'ici le 10 octobre, on sortirait. Hein, voilà.
Ben voilà.
Tout simplement. Ben merci beaucoup, Isabelle. Je suis vraiment intéressé. Ça va être vraiment un suivi important à faire, là, de voir comment tout ça va se dérouler, va se jouer dans les prochaines semaines, les prochains mois, après le 10 octobre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Bye.
Bye-bye.
Bye. Yo tenía mi pabecha. Ponte huevo en morrocoy. Si la pava no me saca.
On écoute ça toute l'après-midi quand il fait chaud et qu'il fait soleil. C'est Maria Mulata, qui est une chanteuse, musicienne colombienne, voilà, qui, bon, elle se produit déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle a déjà remporté des prix, ainsi de suite. Alors, voilà, on entendait la pava hecha, mais pardonnerez ma prononciation espagnole, mais le mot à retenir, c'est Maria Mulata, M-U-L-A-T-A. Si vous aimez ça, il y en a plein d'autres. Et allez chercher ça sur le net. Bonjour, Élisane.
Bonjour, François.
Alors, au lieu d'être en Colombie, on va être ailleurs, mais c'est une belle introduction pour la première revue de presse de l'année.
Oui.
Nous y voici. Hein? Et puis, ça a été un été paralympique.
C'était un été paralympique, François. Donc, on va en reparler aussi un petit peu tout à l'heure.
Tout à fait.
Et puis, effectivement, on commence la revue de presse, donc aux Comores. On va pas souvent aux Comores,
non,
François.
On va pas souvent aux Comores.
Je sentais un petit peu exotique.
Ben, les Comores, pour ceux qui ne le savent pas, est un État africain indépendant. En fait, ce sont trois îles qui sont situées grossièrement entre l'île de Madagascar et le continent africain, donc sur la côte est du continent africain, dans l'océan Indien. Voilà, les gens aux Comores sont pour la plupart, arabophones ou francophones. Cela dit, voilà. Qu'est-ce qui se passe aux Comores?
Aux Comores, on a une apparition de choléra, François.
Okay.
Et forcément, ça touche évidemment toute la population, mais ça touche plus sévèrement les personnes en situation de handicap, parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des complications par rapport... au choléra, et bien sûr, leur système immunitaire peut être affaibli. Et évidemment, là, étant donné les circonstances au Comores, c'est quand même un pays qui est relativement pauvre. Et
oui.
Donc, au niveau des services sanitaires et des services hospitaliers, c'est pas tout à fait...
C'est pas toujours à niveau.
C'est pas toujours à niveau. Donc là, on demande aux gens de faire attention au Comores et puis de suivre les... Et consigne sanitaire de se laver les mains, d'essayer donc de bien se doucher lorsque c'est possible. Mais évidemment, encore une fois,
la vaccination.
Au niveau des endroits où on peut se laver, la disponibilité du savon et tout ça, c'est un peu plus difficile.
Exact.
Il y a également, vous l'avez dit, François, la vaccination qui peut changer les choses, et particulièrement pour les personnes en situation de handicap, bien que, comme je vous l'ai dit, ça touche tout le monde. Les personnes en situation de handicap étant plus vulnérables, on les invite à aller chercher un vaccin, mais encore beaucoup sensibilisation à faire, parce que les gens sont peut-être moins informés par rapport au vaccin, par rapport à ses bienfaits, par rapport au fait aussi qu'il n'est pas dangereux de se faire vacciner. Donc, c'est toute une campagne qui a été faite, entre autres, par Handicap International et par l'ONU.
Et l'association Trisomie 21, l'association comorèse de Trisomie 21, ben alors il y a une campagne donc pour sensibiliser la population là-bas contre le choléra, une maladie on peut penser que c'est éradiqué parce que dans le monde occidental, on n'en parle pas souvent. Là.
Mais non,
c'est vrai.
Je vous confirme, dans plusieurs pays en voie de développement, c'est encore malheureusement très à jour. Et même si avec les moyens au niveau occidental, ça passerait assez rapidement, quoique ce serait quand même désagréable dans des pays où on n'a pas nécessairement, on n'est pas au niveau sanitaire, au niveau des soins. Peuvent en mourir.
Exact. Avec l'accès à l'eau potable et des choses comme ça, ben là, ça favorise pas une hygiène suffisante. Alors, parlons de paralympisme un petit peu.
Oui.
Le magazine The Economist.
Oui. The Economist qui a sorti un article quand même que j'ai trouvé intéressant. Encore une fois, un pays dont on parle assez peu, ou du moins dont on parle... pas toujours pour les bonnes raisons, là, étant donné les circonstances de la guerre. Donc, les athlètes ukrainiens paralympiques de volleyball assis
oui.
Qui ont fait dans des colonnes un article sur les façons dont ils s'entraînent. Donc, il faut savoir là, que l'Ukraine, quand même, sont une équipe qui compétitive.
Oui,
hein.
ils sont dans le top 4 ou le top 5. Là. Ils avaient des... Des ambitions au moins de se retrouver au pied du podium. Et l'article dans The Economist, qui est un article de fond, nous fait connaître les joueurs de l'équipe de volleyball assis d'Ukraine. Et ce qui est vraiment frappant, c'est les conditions épouvantables dans lesquelles
oui.
ils s'entraînent.
Bien, on parle entre autres de s'entraîner avec des équipements militaires. Donc, évidemment, on en blaguait un peu dans l'article, mais on utilise des mines, entre autres des mines anti-chars là, pour faire des poids.
Oui.
On parle aussi de personnes donc qui sont dans l'armée. Pour ceux qui, physiquement, sont encore capables de servir dans l'armée, vous savez
exact.
Évidemment que l'Ukraine a été envahie là, par la Russie. Donc, des athlètes qui ont manqué des entraînements parce qu'ils doivent aller servir
au front,
revenir. D'ailleurs, on parle aussi du fait qu'il y a beaucoup d'athlètes paralympiques qui, malheureusement, sont devenus athlètes paralympiques
à cause de la guerre.
À cause, bien sûr, de la guerre.
Exact.
Donc, qui ont perdu des membres, qui ont perdu de la mobilité. Et ce qui leur a permis, et là, excusez-moi l'expression, là, c'est pas comme si c'était positif, mais ce qui leur a permis de devenir athlètes paralympiques. Mais ils ont été capables, donc, d'aller chercher
de
du positif
reprendre,
dans tout
de,
ça. Oui,
ouais. et de remonter la côte mentalement aussi après des drames comme ceux-là. Dans le même magazine The Economist, il y avait quelque chose au sujet du théâtre Globe à Londres, une pièce de Shakespeare qui a fait beaucoup parler d'elle.
Oui, une adaptation de Richard III.
Oui.
Qui va être joué donc en langue des signes, hein, François.
Ouh, d'accord.
Donc, on parle de... Ça va être joué à Londres, donc ce sera pas évidemment là ici. Par contre, on parle de l'avancement pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, d'avoir une certaine visibilité au théâtre. Donc, il va y avoir certains acteurs qui vont jouer en langue des signes.
Exact.
Il y a aussi une actrice et un acteur qui sont en situation de handicap physique.
Oui. Qui vont être sur le plateau. Il y aura également la pièce Antoine et Cléopâtre. Et là, c'est intéressant parce que le dialogue entre les deux, Antoine parlera anglais dans le texte original de Shakespeare et Cléopâtre, elle, s'exprime en langue des signes
oui.
pour marquer la différence culturelle entre les deux.
Donc, ça va être une pièce bilingue et bien sûr, ça va être intéressant parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et ça va permettre... effectivement, de voir à quel point il y a deux mondes se côtoient et essaient de se comprendre dans des œuvres comme celle de Shakespeare, qui sont des grands classiques. C'est quelque chose qui ouvre au handicap à un plus grand public. Donc, ça va être intéressant à voir, là. Et puis, c'est impressionnant de mêler, donc,
deux mondes
et
oui.
Un monde du handicap. Là, on
exact.
Pourrait penser que ça ne va pas ensemble, mais au contraire, là, l'équipe du théâtre et de l'adaptation de la pièce ont vraiment voulu rendre ça adapté aux différentes réalités et montrer que les deux mondes peuvent se côtoyer.
Parfait. Bien, après la pause, on revient et on parle encore de culture, mais cette fois-ci à Madrid.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Oui, de retour avec Élisane Pellerin. On continue notre tournée culturelle, dirais-je, à Madrid.
Oui, à Madrid, encore une fois, on parlait avant la pause de Shakespeare. Maintenant, on s'en va dans un musée pour les personnes non-voyantes qui vont pouvoir découvrir des monuments. Donc, on a à Madrid un musée où on a des reproductions d'œuvres qui sont des œuvres connues et
d'accord.
personnes non-voyantes peuvent toucher.
Tactile. Donc, il y a une version tactile de l'œuvre. Il y a des monuments, dont il y a des maquettes de monuments du monde entier qui peuvent permettre par le toucher à être comprises ou appréciées, que ce soit la basilique Sagrada Familia de Barcelone, de Gaudi, Ça, évidemment, toucher ça, ça doit être assez rigolo parce qu'ici, il y a 10 millions de détails dans cette église. Mais encore une fois, ben voilà une belle façon de s'intégrer.
Oui, on parle de 37 reproductions, François, donc... Et on parle de 71 affiliés au musée. C'est un musée donc typologique de Madrid. On parle effectivement d'une façon donc d'emmener l'art à des personnes non-voyantes et de leur permettre d'apprécier elles aussi l'art. Et effectivement, c'est une autre façon d'apprécier, non pas par les yeux, mais par le toucher. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Mais c'est effectivement important quand on y pense que les musées soient accessibles. Que l'art en général soit accessible aux personnes en situation de handicap.
Exact. Et dans cette exposition-là, il y a des monuments là, comme le Taj Mahal, le Kremlin, la Statue de la Liberté, le Tower Bridge de Londres. Le Parthénon, ainsi de suite. Alors, c'est quand même remarquable parce que c'est un peu comme faire le tour du monde. J'ai eu le plaisir d'aller dans plusieurs musées en Europe où il y avait des sections comme ça qui étaient tactiles.
Oui.
Et ça fait vraiment une différence. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir toute la collection du musée là, qui se retrouve sous cette forme-là. Voilà. En Espagne, ils sont chanceux, les handicapés. Ils sont chanceux, les handicapés visuels. Quelle drôle de phrase, mais c'est pas grave. Je suis handicapé visuel moi-même, j'ai le droit de le dire.
Oui, c'est alors, vrai.
Voilà. Chanceux, pas chanceux. C'est que l'idée, c'est que tant qu'à être handicapé visuel, l'Espagne est un bon endroit parce qu'il existe une association là-bas, une organisation qui s'appelle ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Excusez-moi pour ma prononciation, l'Organisation nationale des aveugles espagnols, qui, en fait, à qui on a cédé la concession de la loterie nationale.
Oui, c'est intéressant, François, parce que justement, on sait à quel point la loterie est populaire. Hein, on a qu'à penser à la loterie ici au Québec.
Oui.
Mais dans ce cas-là, donc, c'est vraiment pour financer l'organisation qui donne des services aux personnes en situation de handicap visuel. Et donc, la loterie est vendu à monsieur, madame, tout le monde, mais les profits sont remis à cette organisation-là. On parle vraiment de
beaucoup
gros,
d'argent.
Lots, oui, de gros, gros lots. Donc,
on parle de 2,5 milliards d'euros. C'est 3,8 milliards de dollars canadiens par an.
Par année,
qui
c'est énorme.
Qui permettent de financer le salaire des quelques 72 000 employés, dont... Plus de 60 % sont des personnes handicapées.
Oui, donc les revenus permettent des investissements, dont, entre autres, le musée dont on vient de vous parler, qui a été financé à l'aide de cette loterie-là. On parle de 16 000 visiteurs. On parle aussi, donc, d'œuvres qui sont réalisées par des artistes présentant un handicap visuel. On parle donc d'accessibilité à la culture, à des livres en braille, entre autres.
ONCE, même, en fait, possède une chaîne de radio-télé. ils ont vraiment... Ce sont des acteurs très importants dans le paysage culturel en Espagne. ONCE a démarré à la fin de la guerre civile espagnole. Comme souvent c'était le cas dans d'autres moments, on parle, la Première Guerre mondiale est un peu l'origine de l'INCA ici au Canada. Les Paralympiques sont nés suite à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ONCE, après la guerre civile espagnole, au début des années 40, le général Franco, ne sachant que faire avec toute cette quantité de personnes invalides aveugles, a décidé de créer une loterie nationale, d'en céder la concession aux personnes en situation de handicap aveugle. Et de les laisser partir avec ça.
Oui,
alors,
mais bon.
Voilà, alors 80 ans plus tard, là, ça fait boule de neige.
C'est extrêmement payant et tant que je vois la loterie, c'est bien joué pour les bonnes causes.
Pour les bonnes raisons, voilà. En France, il y a encore une fois des problèmes dans le domaine de l'emploi.
Oui, on en a parlé à la dernière saison, François, à peu près au même moment, là. Et on en parle de façon régulière, mais effectivement, là, les aides à l'emploi qui sont diminuées du jour au lendemain, donc 6,8 personnes en situation de handicap en France, et on va parier donc de coupures de moitié dans certaines aides aux personnes en situation de handicap. Donc, on parle de gens là, dont l'allocation a été coupée de 50 %. C'est énorme. Oh. Et ça a été fait donc du jour au lendemain. On a reçu un courriel pour... il a indiqué au niveau de
faites attention, le chèque va rebondir.
Oui, ouais, voilà.
C'est quasiment... Oui, ben,
alors, c'était un peu ça, en fait.
C'était... En fait, c'est curieux parce que tout à l'heure à l'émission, on avait le plaisir de discuter avec M. Jimmy Turgeon-Carrier de l'Association des personnes handicapées visuelles du bas du fleuve et on parlait des coupures dans les crédits d'intégration travail au Québec depuis le 1er août. Et voilà qu'en France, un peu la même situation
c'est
se répète.
C'est un peu la même situation, mais alors... ça n'avait pas été annoncé. Donc, je rigole pas en disant qu'il y a vraiment eu un courriel qui a mis les gens au pied du mur là, en ouais. disant, bon, à partir des prochains jours, votre allocation sera coupée de 50 %. On s'excuse et on vous souhaite bonne chance.
On vous souhaite bonne chance pour la suite. Alors, c'est assez brutal. Alors, on peut évidemment penser qu'il y a une levée de bouclier à ce sujet-là, mais... En même temps que cette levée de bouclier au sujet de l'intégration, encore une fois, l'année dernière, à même date, on avait les mêmes problèmes en France. La rentrée des classes pour les élèves en situation de handicap, c'est pas évident.
Non, et encore une fois, en 2024, François, il y a des élèves en situation de handicap qui n'ont pas de CARV, donc qui ne sont pas scolarisés, malgré le fait, bien sûr, vous le savez, la scolarisation en France, au Canada et dans la plupart des pays est obligatoire, bien sûr.
Oui.
Pour les enfants jusqu'à un certain âge. Et malgré ça, il y a énormément d'enfants en situation de handicap qui n'ont juste pas de place dans les CIAFS parce qu'on ne trouve pas de CIAFS ou d'employés qui sont prêts à les accompagner pour leur donner les services dont ils ont besoin au niveau de l'adaptation. Donc, en 2024, évidemment, c'est inacceptable.
Ben voilà, puis il y a un manque criant des personnes qui sont des aides à l'éducation pour les enfants en situation de handicap et il y avait eu une grande campagne pour augmenter de façon
oui,
significative. Oui, tout à fait, on en avait parlé ici en onde. Et pour augmenter de façon significative l'appui aux personnes en situation de handicap, enfin, surtout dans le domaine de l'éducation. Alors, ben voilà, ça n'est toujours pas fait. Et on parle encore une fois d'une rentrée scolaire où littéralement des milliers d'enfants français vont être laissés pour compte. L'Union nationale des associations de parents de personnes en situation de handicap, l'UNAPEI, qui regroupe presque 900 000 personnes en France, va évidemment lever des drapeaux, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. C'était pareil dans le passé. C'est
oui.
terrible à dire.
Et on parle aussi, quand on parle d'enfants qui sont scolarisés, parfois on parle de seulement quelques heures par semaine. Donc, on parle en ce moment de ceux qui ne sont pas scolarisés du tout, mais il y a aussi un problème avec ceux qui sont scolarisés. Il y en a une bonne partie d'entre eux qui ont accès à seulement quelques heures par semaine, qu'on considère quand même scolarisés, mais à 5 heures par semaine, est-ce qu'on parle vraiment d'une vraie scolarisation?
Oui. Voilà. Hein? Pas tout à fait. Je pense que ça prend du temps avant que les acquis ne s'accumulent. La situation des personnes en situation de handicap, encore une fois, en France aussi, dresse un état des lieux très critique au lendemain des Jeux paralympiques. La France est encore à la traîne, pointée du doigt en 2021 par l'ONU ainsi que par le Conseil de l'Europe en 2023. La Conférence nationale du handicap qui avait eu lieu le printemps dernier là, nous avait laissé croire qu'il y aurait beaucoup d'avancées, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Ouf!
Il y a encore pas mal à faire au niveau de la France dans plusieurs domaines. On a parlé d'accession à l'emploi, d'accession à la scolarité, mais également au niveau du logement, au niveau des transports publics. On traîne au niveau de la France et on promet des plans et on promet d'investir de l'argent, mais visiblement, année après année, on ne fait que très peu d'avancées.
Voilà. Alors, les Paralympiques, ça a été un petit peu un coup de fouet, là, mais on n'a pas de Paralympiques tous les ans. Malheureusement,
non. Et bon, ça donne une visibilité qui est appréciée. Mais bien sûr, quand les Paralympiques terminent, il faut continuer d'en parler.
Quand le cirque quitte la ville, hein, on défait la tente. Voilà. Bon, bien, après la pause, on vient au Canada, au Québec. Puis on a un gros babillard avec plein de choses qui se passent. Thank you. Ah, Al Muirhead, M-U-I-R-H-E-A-D, Al Muirhead, un musicien canadien, trompettiste, guitariste, arrangeur, ainsi de suite. Monsieur Muirhead est encore avec nous, il a 89 ans, et jusqu'à tout récemment encore en disque, il se produisait en spectacle. Voilà, un homme d'une grande sagesse musicale qui connaît tout le monde et que tout le monde, ben, presque connaît. Alors, vous irez sur votre plateforme musicale préférée, là, si vous aimez avoir du jazz tranquille et qui coule comme ça, là, c'est vraiment agréable. Ça, c'était « Come Rain or Come Shine » de Al Muirhead. Bonjour, ça nous ramène, parce que Al Muirhead est né en Saskatchewan, hein, habite en Alberta, ça nous ramène chez nous.
Vous n'auriez rien, François, vous partez en force.
On fait ce qu'on peut.
Effectivement, donc on revient à la maison pour parler ici aussi hein, de problèmes d'emploi des personnes
tout
en situation de handicap. On demande en fait, est-ce que l'ouverture à l'emploi des personnes en situation de handicap fluctue en fonction de la pénurie d'emploi?
Oh, je penserais que oui.
Oui, moi aussi, je pense que oui, François. Et les chiffres semblent effectivement nous donner raison. Donc, comme la pénurie s'atténue au Canada et au Québec dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a moins d'inclusion de personnes en situation de handicap et donc on revient un peu à un autre problème, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap n'arrivent pas à trouver d'emploi malgré le fait qu'ils soient scolarisés, qu'ils aient des diplômes.
Tout à fait, qualifiés.
Qu'ils aient différentes forces qui peuvent servir. Ils ont quand même énormément de difficultés. On parle donc d'un chômage autour de 27 %
Ouf! 27 % de chômage.
Pour,
là,
c'est, pour les personnes en situation de handicap,
c'est énorme. Si la population en général avait...
C'est presque une personne sur trois.
Ben oui, si on avait 27 % de chômage de la population en général, là, ce serait...
On brûlerait des rues, François.
Ben voilà. Alors,
on parle de 6 % donc, au niveau du Canada là, en ce moment. Donc, pas besoin de vous dire là, que c'est beaucoup plus...
Ben oui, et évidemment, ça entraîne toutes sortes de problèmes de pauvreté.
De pauvreté, ça coûte cher à l'État, évidemment. Ça cause des problèmes, évidemment, de santé mentale. Hein, c'est les gens qui
tout
sont pris à la maison, qui sont isolés, peuvent développer des problèmes au niveau de leur santé mentale et même de leur santé physique à force d'être isolés. On déplace un problème, en fait, et ça coûte cher à l'État. C'est pas du tout productif. Et pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes, ai-je besoin de le préciser, qui voudraient contribuer à la société, qui ont des talents et qui ne veulent pas rester à la maison, écouter la télévision toute la journée, on manque d'opportunisme là,
La coupure des crédits d'intégration d'emploi est d'autant plus aberrante.
D'autant plus, oui, j'allais dire fâcheuse, mais vous avez raison.
D'empêcher cette intégration-là. Alors, oui, c'est cruel à dire, mais effectivement, quand il y avait vraiment une pénurie d'emploi.
On était prêts à un petit peu plus ouvert d'esprit.
On ouvrait un peu plus les bras pour accueillir les personnes en situation de handicap. Maintenant que c'est moins criant, bien qu'il y ait encore des...
Oui, il y a encore une
serré.
Pénurie, mais c'est moins criant.
Ah, bien là, tout d'un coup, c'est moins important.
On envoie des CV, puis on a moins de réponses.
Pourtant, à chaque fois qu'il y a des sondages auprès des employeurs qui ont intégré des personnes en situation de handicap à l'intérieur de leur entreprise, à chaque fois, on entend les mêmes choses. Loyauté,
fiabilité. C'est des très bons travailleurs, oui.
L'impact que leur présence a sur tout l'ensemble de l'équipe, de toute la main-d'œuvre.
C'est extrêmement positif, effectivement.
Tout à fait.
Mais malheureusement, là, c'est ça, il faut un petit peu plus d'ouverture d'esprit. Des fois, ça demande un peu d'adaptation, quoique généralement, les adaptations sont assez minimes. Mais on dirait que les employeurs voient ça comme étant une grosse montagne, ne savent pas parfois aussi qu'il y a des programmes, il y a des aides pour ça. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner pour aider à l'adaptation des lieux, à l'intégration des personnes également. Donc, il faut encore le rappeler, donc d'intégrer les personnes en situation de handicap au travail, ce n'est pas si compliqué et c'est très positif.
Et on va en reparler cet automne parce qu'il y a souvent des programmes qui sont lancés à ce temps-ci de l'année. Pour conclure avec les Paralympiques et avec leur effet salutaire sur la santé et l'engouement de l'activité physique.
Après, je n'en parlerai plus pendant 3 ans, François, je vous le jure.
Ben non, quand même. Il y a les Jeux d'hiver là, qui s'en viennent.
Il y a ça, oui. J'avais oublié. Bon, ben vous êtes pris avec moi. Mais pour revenir, donc, on parle d'un organisme qui est à Montréal. Donc, le Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. Que j'ai connu, avec lequel j'ai travaillé un peu.
D'accord.
Et c'est un centre qui, on le dit, favorise, donc l'objectif favorise le sport chez les personnes en situation de handicap, tant au niveau donc du loisir, mais peut aussi donc pousser des athlètes, les aider dans leur développement.
Vers des niveaux de performance plus élevés.
Très élevés. On parle d'athlètes paralympiques qui ont commencé au CIVA, entre autres mon ami Alison Avane, qui est en Bossia, qui est très bonne, qui est classée première ou deuxième au monde de sa varie. Ça varie d'une
compétition à l'autre.
Là, son coéquipier, Ruyan Siobanu, Marco Dispeltro aussi, qu'on connaît bien, qui est maintenant, je pense, à la retraite, là, si je ne dis pas trop de niaiseries.
Ancien numéro un mondial.
Ancien numéro un mondial, mais qui est encore avec Steven, donc qui continue d'intégrer des personnes au sport et de montrer son sport à des jeunes athlètes. Et donc, ils font un travail remarquable en faisant des essais avec des jeunes et des moins jeunes. Des fois, on peut commencer un peu plus tard, hein, puis faire quand même une très belle carrière. Et pour certains, ce sera vers les Jeux paralympiques. Pour d'autres, ce sera pour s'amuser, pour socialiser, pour bouger un peu. Dans les deux cas, évidemment, ça prend des proportions donc très positives.
Tout à fait. C'est des retombées du paralympisme et de la couverture médiatique des Paralympiques. Hein. Ça donne le goût de bouger à des gens qui, peut-être, a priori, ne se sentaient pas nécessairement appelés par l'activité physique. Mais donc, c'est des ressources qui existent au Centre d'intégration à la vie active ici à Montréal.
Oui.
Puis il y en a d'autres aussi à Québec.
Oui. Il y en a un peu partout dans les régions.
Oui.
Donc, allez voir là, sur Internet. Tout pour à les fait. Jeunes, pour les moins jeunes également. Il y a aussi différents réseaux dans les centres scolaires qui se développent. Donc, de plus en plus, on développe ça parce que ça a quand même là, des effets très, très positifs sur la santé et sur
l'estime de soi, la sociabilisation, l'aspect
social et tout ça. Donc, Siva qui fait un très, très bon travail et qui a permis de développer des athlètes d'excellent niveau.
Bravo. Mais en parlant toujours de ce qui est disponible auprès de la population, on a accumulé dans notre pigeonnier toutes sortes de nouvelles pour des événements qui nous invitent à sortir de chez nous pour découvrir au courant du prochain mois et ainsi de suite. Alors, on vous défile ça.
Oui, on commence donc avec l'événement Montréal Art Accessible qui aura lieu le 19 septembre de 17h à 20h. C'est Danse Cité Montréal Aimé, donc Montréal Art Interculturel, qui vous invite donc à une soirée festive qui va présenter l'offre culturelle accessible à Montréal pour la saison 2024 et 2025 au Café Bar et Théâtre du Mai. À Montréal.
Et pour avoir plus d'informations, ainsi de suite, ben, vous avez à contacter, entre autres, Maude au 514-525-3595 ou encore, vous pouvez aller communication au singulier à commercial densité, il y a un tiret entre densité.org. Voilà. La Fondation INCA offre, comme toujours, et la session d'automne recommence bientôt, des services psychosociaux, des groupes de soutien pour les personnes qui vivent une perte de vision. Il y aura deux formats de groupes disponibles en présentiel et à distance. Alors, ça veut dire que même si vous n'habitez pas dans la région immédiate de Montréal, ben, vous pouvez certainement y prendre part. Les rencontres en présentiel auront lieu au bureau de INCA, 2085 rue Parthenay.
Oui.
Les rencontres se tiendront le lundi après-midi de 13h30 à 15h. Il y aura 8 rencontres et ça commence le 7 octobre.
Oui, et pour ceux qui veulent être en ligne, ce sera donc par Zoom. Ça commence donc en octobre aussi, le mardi 8 octobre, pour s'inscrire le site du CIVA ou encore par téléphone 514-934-4622.
Poste 245, c'est David Trudel, Bergamo, à l'INCA, qui s'en occupe. Alors, que ce soit en présentiel ou par Zoom, donc c'est 8 rencontres consécutives à partir du 7 octobre pour les lundis et du 8 octobre pour les mardis. Le premier en présence, le deuxième en Zoom. Il y a des groupes d'entraide aussi qui vont débuter. L'horaire, c'est un peu la même chose. C'est de 10h à 11h30 en français et en présentiel. Ça, c'est dans les Laurentides. C'est au local de l'Association des personnes handicapées visuelles. Des Laurentides.
Ah, oui, ça, donc c'est à Saint-Jérôme.
À Saint-Jérôme,
soit
voilà.
Dans mon bout, à moi, sur la rue Rompré. Et encore une fois, si on est intéressé, il faut contacter David Trudel-Bergamo. Il y aura donc 3 ateliers d'offert cet automne. Et vous pourrez à ce moment-là échanger au niveau des défis que vous rencontrez. C'est toujours une bonne chose de sortir de ses choix et de pouvoir jaser. Évidemment, il y aura des petites collations de fournies.
Bon, ben bravo. Le temps presse, mais disons que l'INCA toujours invite un parcours historique en septembre qui est gratuit. C'est jeudi le 12. Le 12, là, c'est dans quelques jours. Le 12 et le 26 septembre de 13h30 à 15h30, c'est un parcours historique qui a lieu dans le Vieux-Montréal. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, on va y être. Et encore une fois, on appelle à l'INCA 514-934-4622. Au poste 245. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se reparle la semaine prochaine, Élisane.
Oui, on se voit la semaine prochaine.